est approché, Laurent Belay.
Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
moto.
Je regarde bien Alex Zoule.
Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Antichlec qui juste derrière. Et Albert vient de partir. Lance Armstrong est lâché.
Bonsoir tout le monde, les commissaires de course en ce 10 juillet 2019, c'est Benjamin. Et pour parler de cette étape avec moi, eh bien, nous sommes quatre comme l'échappée du jour. Et vous remarquerez que, expert comme je suis, j'étais à 26 coureurs près à avoir le nombre exact de coureurs dans l'échappée. Avec moi ce soir, Théo. Bonsoir Théo.
Bonsoir.
Mais également Grégory. Bonsoir Grégory.
Salut à tous.
Et enfin, Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
Alors, une étape, on va en parler de comment on l'a vécu, qu'est-ce qu'on en a pensé. Tout d'abord, le vainqueur de l'étape, Peter Sagan, devant Wout Van Aert, Matteo Trentin, Sonny Colbrelli, Greg Van Avermaet et Julien Simon. À cette annonce de résultats, pour ceux qui n'ont pas suivi l'étape, vous dites qu'il y a déjà un décalage entre ce qu'on a annoncé hier et ce qui s'est passé aujourd'hui. Mathieu, t'en as pensé quoi de cette étape? Est-ce qu'elle t'a fait rêver?
Alors non, clairement non, elle n'a pas fait rêver.
Une étape sieste peut faire rêver.
Non, elle a fait rêver au début parce qu'on pensait qu'il allait y avoir de la bagarre, que ça allait avoir bataillé dur pour prendre l'échappée, qu'il allait y avoir une échappée de 30, mais finalement il n'y a rien eu de tout ça. Et donc, enfin, ça a bataillé quand même un petit peu pour prendre l'échappée, mais sans plus. Et puis, finalement, après, je pense que la Bora la voulait vraiment, celle-là, et Sagan l'avait vraiment cochée. Et donc, ils ont contrôlé la course de manière assez magistrale. Et finalement, on a eu 4 gars qui sont partis et ils n'ont jamais pris plus de 3 minutes. Donc, finalement, le scénario a été assez décevant.
Grégory, Il y a des absents dans cette échappée, même un peu au résultat final, hormis Julien Simon. Où étaient passées les continentales invitées françaises?
On les cherche toujours, malheureusement.
Alors, attendez 5 secondes. Charles, on t'entend si tu nous entends, nous. Donc, vas-y, Grégory, continue.
On va faire 100. En fait, on attend toujours les Continental Pro françaises et les Continental Pro en général. Après, Wanty, par exemple, a bien attaqué hier avec Fredo et Bakker. Mais sinon, pour le reste, en ce qui concerne Direct Energy, qui a quand même essayé avec Calmejan, qui n'a pas eu forcément beaucoup de chance et forcément beaucoup de jambes non plus. On n'a pas beaucoup vu de mouvement de leur part en début d'étape.
Théo, toi, tu étais sur le bord de la route. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette étape? Tu étais juste en haut de la côte de Grendelbrush. Je ne sais pas comment on
prononce ça. Grendelbrush ou Grendelbourg, comme tu veux. J'en ai pas pensé grand-chose et j'ai appris que ça faisait peut-être presque 10 ans que j'étais pas allé sur la route du Tour. Et en fait, c'est pas très passionnant. J'ai coupé la caravane. J'ai pu voir les coureurs de près, par contre, et ça, c'est... En fait, on les reconnaît quand même plus facilement que la télévision. Mais bon, après, quand on n'est pas sur des côtes au-delà de 10%, ils passent tellement vite que ça a dû durer, pour l'échapper, quelque chose comme 10 secondes, et peloton 40 secondes. Mais je ne regrette pas, vu que ce n'était pas une étape passionnante. Je n'ai pas loupé grand-chose. Et j'ai été un peu surpris quand j'ai vu justement l'échapper arriver, parce que je n'étais pas sûr d'avoir les bonnes infos. Et j'étais surpris de voir que 4 échappés... alors qu'on s'attendait à une étape un peu pour baroudeur costaud, quoi.
D'accord. Bon, alors cette échappée, c'est vrai que 4 coureurs, c'était pas grand-chose. Il n'y avait pas non plus de Français. Il y avait Tim Wellens qui allait faire les points pour le maillot de meilleur grimpeur. Et justement, parlons de cela, que ce soit les points du meilleur grimpeur. Désolé encore d'entendre Charles, mais bon, vu qu'il ne nous entend pas, il ne peut pas couper son micro. Donc, ces points du meilleur grimpeur peu disputés, voire même pas du tout disputés, puisque le seul qui est tenté de prendre des points, c'est Meurice ensuite dans le peloton. Mais déjà, on avait vu le maillot vert. Ça va être pénible. Ça va être très pénible. C'est une nouveauté quand même de voir ces points du meilleur grimpeur, Grégory, aussi peu disputé. Le maillot vert, on est un peu habitué, on va en parler juste après. Mais là, le meilleur grimpeur, c'est quand même quelque chose.
Ouais, c'est vraiment dommage parce que justement, l'échappée n'a jamais pu prendre une avance conséquente. Et au final, je pense que devant, personne n'y a jamais cru. Et il suffit que Tim Wellens parle et s'arrange avec ses compagnons d'échappée pour que ça suffise pour qu'il puisse prendre les points, passer en tête sans que ce soit contesté dans les premiers difficultés. Donc c'est décevant, surtout qu'il y a des équipes qui doivent vraiment se montrer. Je pense à Katusha notamment. Il y avait Wurtschmidt devant la Katusha. On sait qu'elle va disparaître maintenant et
faudrait. Alors pas sûr, apparemment. À l'avantage. Pas sûr. On a des infos contradictoires sur la Katusha qui continuerait, qui aurait même demandé sa licence World Tour. Donc, parlons du maillot vert maintenant, Mathieu. Oui. Un maillot vert très peu disputé, même au premier sprint intermédiaire. Il y a trois coureurs qui font le sprint, il y en a cinq autres qui accompagnent, alors qu'il n'y a eu aucune arrivée. Enfin, rien n'est perdu pour les sprinteurs, mais même dès la première étape, il y avait très peu de candidats à ça.
Oui, apparemment, oui, il y a assez peu d'enjeux. Hein. Caleb Ewan, on le voit qui vient pour disputer le sprint, mais finalement, il ne sprint même pas, il reste assis sur sa selle, alors que bon, il savait très bien qu'il n'irait pas très loin ensuite, donc il pouvait quand même un peu utiliser plus ses forces, je pense. Donc, apparemment, est-ce que les sprinteurs pensent que Sagan va garder le maillot, va garder le maillot jusqu'à Paris et qu'il est incontestable? Je pense qu'ils sont un peu battus dans leur tête, les autres sprinteurs. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné.
Théo.
Ouais, bah pour rebondir là-dessus, effectivement, enfin, c'est un truc qu'on n'a pas forcément abordé lorsqu'on a fait la présentation du tour. Benjamin, je me rappelle que tu disais qu'effectivement, il y avait moins de sprints après des côtes et que du coup, moins de sprints intermédiaires après des côtes, que du coup, plus de sprinteurs pourraient jouer le classement par points. Mais le truc, c'est que même dans leur tête, en fait, je pense qu'ils sont déjà battus dès le départ. Et la première étape, avec la chute de Groenewegen et Sagan qui réussit à arriver premier au sprint intermédiaire, dès cette étape-là et la troisième où on fait encore des points, je pense qu'en fait, ils n'y croient même plus. Et même avant la course, en fait, ils n'y croient plus. Et je crois que tant que Peter Sagan sera là et qu'il y aura le même règlement par rapport au nombre de points, il n'y a pas grand monde qui va tenter de le battre en général, enfin de le battre au classement par points. Le seul espoir qu'on peut avoir, c'est Wout Van Aert, peut-être pour le futur, parce que ça semble être le seul autre coureur aussi polyvalent. Mais bon, cette année, il doit bosser pour son leader Kreuzberg, pour son leader Groenewegen. Et on a même vu que Tennyson était plus rapide que lui, donc c'est un peu compliqué. Je pense que pour cette année, le classement par points, c'est déjà fini.
Comme dit Théo Grégory, le classement par points, on pense que c'est déjà fini. Mais deux choses. La première, c'est je serai sprinter, je pense que je tenterai quand même de marquer des points. On ne sait jamais, Sagan, il peut être exclu, ça lui est déjà arrivé, ou il aurait pu chuter. Il pourrait chuter plus tard. Et deuxième point, pour des champions comme eux, c'est quand même triste de partir battu, j'ai même envie de dire, avant même l'arrivée de la première étape.
Surtout pour des sprinteurs, quoi. S'ils devraient avoir vraiment l'instinct de la victoire, l'instinct du combat, vouloir sans cesse se tester, jouer des coudes et essayer de s'imposer face à leurs adversaires, ne serait-ce que pour avoir, vu qu'ils partent perdants, mais pour reprendre un ascendant psychologique sur les adversaires, ce serait déjà pas mal, mais c'est pas du tout ce qu'on voit en ce début de tour. Et aujourd'hui, c'était carrément flagrant.
Est-ce que ça te fait pas penser à un Peter Sagan qui tente les sprints intermédiaires quasi à fond et qui tente les arrivées quasi à fond également, à Chris Froome, qui est un des seuls coureurs du général lorsqu'il était le plus fort, qui attaquait et qui n'avait pas peur d'être contré en fait finalement.
En fait, il loupe pas une occasion de s'illustrer. Il sait ce qu'il a à faire pour avoir le maillot vert. Il l'a déjà fait par maintes reprises par le passé. Il sait que chaque point peut être important au final. Personne n'est à l'abri de perdre un déclassement, un souci rencontré avec un adversaire qui fait perdre des points, une sanction, quoi. Et il vaut mieux prendre chaque point d'avance. Ça peut compter sur la fin.
Ouais. Théo, un des adversaires annoncés de Peter Sagan, c'était Michael Matthews, qui a fait énormément rouler son équipe sur la fin à l'école. Comment peut-on justifier qu'un coureur qui annonce que depuis le début de l'année, il n'a pas préparé la sprint justement pour être le mieux aux côtés de Tom Dumoulin, fasse autant rouler son équipe sans même placer une seule attaque et se prenne un tir sur le sprint en terminant septième derrière même pas des purs sprinteurs comme Julien Simon, qui est quand même plus puncher, même si on sait qu'il a une bonne pointe de vitesse.
Alors, après, même si Matthews a travaillé comme une montagne, c'était pour être dans un rôle d'équipier. Je ne suis pas sûr qu'il avait les capacités d'attaquer et arriver au bout. Je pense qu'il se disait qu'en mettant un très fort tempo...
Excuse-moi. Je ne pensais pas que Matthews pourrait attaquer. Je pense qu'il aurait pu faire attaquer certains de ses équipiers pour faire travailler la Bora un peu plus, voire pour jouer la victoire sur deux fronts. Par son équipier, s'il est repris lui-même.
Mais je pense qu'il se disait qu'en mettant un rythme très fort, ça allait plus désavantager les autres que lui, parce que Matthews, c'est quand même peut-être le meilleur grimpeur des sprinters, peut-être même meilleur que Sagan quand il est vraiment en forme. Enfin, Matthews, je crois qu'il a fait un top 10 au Tour de l'Avenir, et après il s'est orienté sprinter. J'ai regardé un peu son dernier kilomètre pour comprendre comment il avait fait un tel fail, parce que on en parlait entre nous dans l'après-midi. Au kilomètre, il est très bien placé, et en fait j'ai l'impression qu'il a peur de se retrouver devant un peu tôt, et que du coup il attend que Sagan passe, et quand Sagan passe, il tente de prendre sa roue, il arrive à l'accrocher, mais il se fait un peu frotter par Omar Fraile, et les deux perdent beaucoup de vitesse. Et
c'est digne d'Arnaud Démare, ça.
Ah oui, non, mais en fait, il essaye de prendre. Dans l'arrivée, il y a eu un gauche-droite à un moment donné. Et en fait, il se fait bloquer un peu la route à ce moment-là et il perd toute chance de gagner. Mais on voit quand même, sur la vue d'hélico, qu'il revient très fort à la fin. Donc, il avait les cannes, peut-être pas pour gagner, mais au moins pour faire podium. Mais il s'est fait bouger dans le placement.
Gageons qu'un droite-gauche, Nasser Bouani, un boxeur, n'aurait pas été. Déboussolé, lui. Je lis sur le chat que Antoine dit. Alors, il fait deux derrière Alaph l'autre jour, donc à Épernay. Il était favori du sprint. Oui, mais attention, à Épernay, c'était arrivé en boss. C'était pas un sprint plat. C'est là est toute la différence. Mais de toutes les façons, je comprends qu'il puisse jouer la victoire. Mais de là à faire rouler, sacrifier son équipe à ce point, bon, voilà.
Bah, le problème, c'est que l'Axon Web, je pense qu'ils ne savent pas trop quoi faire sur ce tour après.
Bah, dans ce cas,
après les chefs,
tu multiplies les tentatives. Parce que hier aussi, c'est eux qui roulent dans la bosse, mais là, je peux comprendre qu'ils veuillent retirer des sprinters. Mais en voyant que Colbrelli ou Sagan sont encore là aujourd'hui, enfin, je sais pas, à un moment, tu essaies autre chose. Mathieu, tu en penses quoi, toi?
Oui, mais c'est vrai que vu les coureurs qu'il y a dans l'équipe, il n'y a pas vraiment de gros punchers pour attaquer dans un final à fond. Enfin, Kelderman ou Roche, je ne les vois pas trop à mettre une mine dans les 5 derniers kilomètres pour aller gagner. Enfin, c'est les 3 qui sont dans le groupe, hein, avec Matthews. Donc, je ne vois pas vraiment ces coureurs-là mettre une mine dans... C'était vraiment Matthews leur seule chance. Effectivement, il n'a pas eu vraiment de chance durant le sprint. C'était assez sinueux quand même, donc... Il s'est fait piéger, quoi.
Ouais. Bon, on a tenu plus ou moins la moitié de l'émission sur cette étape, ce qui est largement au-dessus de nos espérances. Parlons de l'étape de demain, messieurs. Premier grand rendez-vous entre les favoris, en haut de la planche des belles filles. Mais ça serait sous-estimer cette étape, Théo, de ne parler que de la planche des belles filles, parce qu'avant cela, ça va être très, très dur.
Ouais, il y a du très lourd. Hein. C'est peut-être le meilleur... le meilleur des Vosges. Enfin, c'est une étape de moyenne montagne parce qu'on monte pas très haut. Je crois que le plus haut auquel on monte, c'est 1336 mètres. Mais malgré tout, on a des cols longs. Il y a deux cols de plus de 10 mètres et la planche des
Belles Filles. De plus de 10 mètres
De plus de 10 km, pardon. le Markstein qui s'enchaîne avec le grand ballon et le ballon d'Alsace. Mais c'est pas des cols, enfin c'est des cols quand même situés relativement loin de l'arrivée. Il y a aussi le col des Chevrères qui est à 3 km à 9,5% et 1 km à 14%. Donc vraiment c'est du très costaud. Mais est-ce que ça veut dire qu'on aura une étape de folie? Enfin, on sait que c'est le Tour de France, que les leaders sont un peu conservateurs. Je pense que ça risque de se résumer pour les favoris, et sûrement aussi pour la victoire finale, à un final à fond sur la planche des backflips.
Ça rappelle pas mal l'étape du Tour de France 2014, là où Alberto Contador avait abandonné. Messieurs, t'es à Grégory. Quand on voit cette étape et la planche des belles filles qui a toujours été une occasion pour les favoris de s'expliquer entre eux et de faire des écarts, parce que même si, l'ascension est courte, elle fait toujours de gros dégâts. C'est un peu comme l'Alpe d'Huez, il se passe toujours quelque chose. Est-ce qu'il aurait pas fallu mettre cette étape aujourd'hui et mettre celle qui s'est passée aujourd'hui, donc demain? Parce qu'on a l'impression qu'il faut vraiment que les favoris sachent où c'est qu'ils sont les uns par rapport aux autres, pour que les plus faibles, les moins forts, laissent leurs équipiers plus de liberté, en fait.
Bah, disons qu'après coup, c'est clairement ce que je pense maintenant. Après, je ne l'aurais pas forcément pensé ce matin. Je pensais vraiment qu'il allait se passer beaucoup plus de choses aujourd'hui. Bon, je ne m'attendais pas forcément à quelque chose d'extraordinaire, mais je pensais vraiment que ça serait bougé plus. Mais du coup, oui, en effet, on aurait peut-être... Il aurait peut-être mieux valu mettre la planche des belles filles en premier et pour avoir un meilleur spectacle sur l'étape qu'on a eu aujourd'hui. Et par contre, oui, effectivement, la planche des belles filles, ça a toujours été une montée qui a fait quelques petits écarts. Après, en plus, avec les bonifications, ça intensifie encore un peu les écarts. Et cette année, il faut noter que l'ascension a été rallongée, une partie qui a été resurfacée de plus de 1 km à environ 10% de moyenne sur la fin. Ça devrait faire encore plus d'écart sur ceux qui ne seraient pas en forme demain.
Mathieu, une étape comme ça, Grégory parle de ceux qui ne sont pas en forme, ceux qui ont du mal à digérer les premiers très gros pourcentages, on va dire longs, puisqu'il y en a eu des pourcentages très élevés lorsqu'Alaphilippe gagne. Une étape de 160 km, une arrivée en haut d'un mur. Quel coureur vois-tu à la fête? Quel profil de coureur?
Moi, je vois à la fête les favoris là demain. Je pense que Bernal, je le vois bien gagner demain. Moi, j'en fais mon favori. Après, c'est vrai qu'il ne faudra pas être pas bien dès le départ, parce que je pense que ça va quand même, cette fois-ci, ça bataillera peut-être pour l'échapper. Bon, c'est vrai que la première montée est un peu loin, donc l'échapper sera peut-être partie quand on arrivera sur les premières pentes.
Mais il faudra le pied.
Il faudra pas être mal au départ. Bon, au pied de la planche, j'espère qu'on n'aura plus qu'une trentaine de coureurs au pied de la planche.
Je pense que
c'est un peu optimiste, mais
30 coureurs avec ce qu'il y a eu avant, je pense que c'est faisable, surtout avec le col des Chevrères, ouais, qui fait quand même 3,5 km à 9,5%. On peut s'attendre, je pense, Mathieu, à ce qu'une équipe comme Astana, par exemple, tente d'écrémer comme ils font, contrairement à une Ineos qui montrait en watts progressivement, non?
Oui, je pense que après, il faudra voir aussi qui se glisse dans l'échappée. Est-ce qu'on va avoir des gros coureurs, entre guillemets, un peu loin au général, qui vont se glisser dans l'échappée? Par exemple, est-ce que Simon Yates va partir dans l'échappée? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a vraiment été lâché à la pédale ces derniers jours, ou est-ce qu'il s'est économisé pour préparer un coup et éventuellement servir de relais à son frère dans la planche? On peut imaginer beaucoup de choses, mais le scénario est quand même assez ouvert. Effectivement, ce nouveau final avec, je crois que le dernier kilomètre en plus, il est pas goudronné, hein, c'est juste un espèce de chemin blanc, on va dire. C'est pas goudronné, donc.
J'ai pas du tout l'info. Je me demande s'ils n'ont pas goudronné pour le Tour de France.
Ouais, il me semble que c'est juste du compacté, c'est pas goudronné, il me semble. Enfin, et d'ailleurs sur le profil, c'est en grisé. C'est pas en vert comme le reste, alors il me semble que c'est pas goudronné. Hein. Je sais pas si sur le chat il y en a qui peuvent confirmer, mais...
Ça a été goudronné pour le tour, semble dire Katmapei.
Ah bon, alors peut-être.
On verra.
On verra demain.
On le verra quand on écoutera Laurent Luya présenter l'étape. Oh, que nous serons contents d'entendre ce qu'il a à dire. Nous regarderons donc ce qu'il y a derrière lui, tout simplement, pour voir si c'est goudronné ou pas. Grégory, quel coureur tu vois prendre l'échappée?
Même s'il n'a pas l'air forcément super en canne et qu'il n'a pas été super rassurant depuis le départ du tour, je vois bien encore Calmet Jeanne essayer. Et il y en a plein d'autres qui vont essayer aussi. Mais je vais laisser mes camarades le dire.
Ouais, vas-y Théo.
En fait, je suis en train de faire le classement pour voir des coureurs costauds qui sont dans les bonnes équipes et qui ont déjà perdu du temps. Et en fait, j'en vois pas beaucoup. Donc je vois mal vraiment des coureurs qui peuvent aller au bout.
Mais je te demande pas ceux qui vont aller au bout, je te demande ceux qui prendraient l'échappée.
Je me dis que quelqu'un comme Caruso, par exemple, il peut essayer de sortir. Serge Poel, qui a perdu du temps, il semblait pas très très en forme. On sait que Thomas De Rendt risque d'attaquer à un moment. Bon, cette année, il a pas l'air d'être au top. Wellens pourrait sortir, par exemple, s'il veut conserver son maillot à poids, parce que même s'il a 17 points, j'ai pas fait le total des points de l'étape, mais il me semble qu'il y en a plus, de 20, assurément. Il y en a même plus de 30. Donc s'il veut être sûr d'avoir son maillot, il faut qu'il sorte. Bon, il risque d'être fatigué aussi. Voilà, je pense qu'on risque d'avoir une échappée de bons coureurs, mais de second couteau. Et... Yes.
Moi, je vais donner un coureur qui va être dans l'échappée. Vous n'êtes pas fichu de donner un nom en étant sûr. Le Dossard 195. Xandro Meurs.
Ah oui, justement pour le maillot à poids.
Ouais. Alors du coup, il y aura peut-être Tim Wellens, mais vu comme Tim Wellens a pété de la roue de Squinch, l'homme aux multiples appellations, je suis pas trop serein pour le devenir de ce maillot de meilleur grimpeur sur les épaules du Belge. Focalisons-nous maintenant sur les favoris, messieurs. Est-ce que, même si on les a pas trop vus, il y a des coureurs qui vous ont fait une bonne ou au contraire une mauvaise impression? Je vais commencer par parler d'un coureur dont on a justement discuté un peu avant l'émission. C'est Alejandro Valverde. J'ai l'impression quand même qu'il manque quelque chose. Et je crois que c'est avec toi, Grégory, qu'on en parlait, qui fait vieux desséché. C'est bien ça que tu as utilisé comme expression?
C'est ça, il n'a jamais été aussi affûté, 58 kilos, mais physiquement, il fait même plus que son âge. Et c'est... Il fait vraiment vieux. Mais en plus de ça, on voit qu'il a cette année, il a complètement perdu en explosivité. Bon, sur le début de tour, il n'a pas forcément eu l'occasion de montrer ses talents de puncher finisseur comme il a eu l'habitude de nous montrer, même s'il y a quand même eu des arrivées où il aurait peut-être pu en faire un peu plus.
Aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, il aurait été dans le sprint en forme.
Ouais, même, il aurait peut-être même pu attaquer, comme on l'a vu offensif sur le dernier Tour de France, pour voir comment ça réagissait derrière, Mathieu, non?
Oui, effectivement. Mais là, oui, on ne l'a pas vu du tout. Hein. Mais bon, les favoris, c'est vrai que personne ne s'est découvert.
Ouais, mais Valverde, même si tu le cites, on peut le citer dans les favoris, il y a quand même Quintana et Landa qui sont objectivement, je pense, devant lui dans son équipe.
Ah oui, de toute façon. De toute façon, il est là pour être au service de Quintana surtout, parce que Landa, sorti de son Giro, j'y crois quand même pas trop. Enfin, je pense qu'il va tenter des coups, mais pour le général, je suis pas sûr quand même.
Théo, tu veux réagir?
Justement, par rapport à Landa, je pense que demain, ça va être l'occasion d'un peu genre éperci... enfin de merde mince désolé d'éclaircir le mystère. Oui, pardon, c'est parce que je suis jeune.
C'est la jeunesse, bravo.
Il y a deux coureurs qui sortent du Giro, donc on se dit qu'ils viennent un peu sur le tour en dedans, qu'ils font les échappées, c'est Landa et Nibali. Mais ils ont l'air quand même sacrément costauds. Landa, sur l'étape qui a terminé à Épernay, il est sorti dans un groupe avec que des punchers, alors que c'est pas non plus le coureur qui a le plus de punch de tout le peloton. Et Nibali, il avait l'air bien dans les ascensions. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire plus que de la figuration ou aller chercher un maillot à poids et une victoire d'étape? Je pense que demain, ça va permettre d'avoir une première réponse.
Nibali qui court d'ailleurs comme un leader, on l'a vu souvent placé à l'avant pour ne pas prendre les cassures. On va attendre de voir demain comment ça se passe, sachant que ce n'est pas une étape forcément qui lui convient, du fait qu'il est quand même moins explosif qu'en 2014 par exemple. Et maintenant la dernière question, Théo, je lis sur le live là, Romain Bardet, est-ce qu'il n'est pas déjà obligé d'attaquer?
Mais le problème, enfin, effectivement, s'il veut gagner le tour, il est obligé d'attaquer. Mais est-ce que chez AG2R, on a encore l'objectif de gagner le tour? Je pense qu'ils sont conscients que ça va être un peu compliqué. Et en fait, attaquer avant la planche des belles filles, c'est un peu suicidaire. C'est le meilleur moyen de se retrouver à 3 minutes. Je pense que vraiment, pour tous les leaders du général qui sont encore placés, Bardet, il ne faut pas exagérer. Hein, il est pas à plus de, enfin, il est à 1 minute 30, je crois, de Kreuzberg, quelque chose comme ça. C'est pas non plus catastrophique et ça se rattrape en montagne si on est plus fort. Donc ils vont tous attendre et voir où ils en sont. Demain, ça va servir à ça. Ça va être un étalonnage pour voir où les gens en sont.
On est d'accord, messieurs?
Oui. Oui, demain, ça va être la première révélation, on va dire. Il y aura beaucoup de choses à dire demain soir, je pense.
Je pense aussi.
Enfin, j'espère.
Non, je ne vois pas comment on peut rien dire. Parce que de toute façon, s'il ne se passe rien, je pense qu'on fait 45 minutes où on sera énervé.
Oui, mais messieurs, il y a forcément 4 ou 5 favoris qui vont péter demain, je pense.
Oui, enfin, 4 ou 5. Oui, mais de toute façon, ils ne vont pas finir à 15 au sprint. Ce n'est pas possible. Non. Même en 2012, où c'était une étape... C'était la première étape difficile et où il n'y avait aucune difficulté avant, ils n'étaient pas arrivés.
Après, il faut se méfier aussi des conclusions sur la planche. En 2012, le cinquième, c'est Taramae. Il explose totalement.
Oui, mais Taramae, on sait qu'il peut être super fort un jour et dans le groupe Eto le lendemain. Donc, Bon, messieurs, passons aux pronostics. Alors, les pronostics... Alors, je vais donner d'abord les deux pronostics qui seront à trouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le vainqueur de l'étape de demain. Et ensuite, je suis allé chercher le top 10 des coureurs cités par VéloClub.net sur le forum pour le classement général. Ce qui nous donnait Bernal, Pinot, Fuglsang, Quintana, Geraint Thomas, Adam Yates, Romain Bardet, Kreuzweig, Rigoberto Urán et Dan Martin. Je vous mets les noms sur le live maintenant. Et je les mettrai en commentaire également. Alors, je suis désolé, il y a les points qu'ils avaient récoltés lorsqu'on a fait le top 10. Ça ne rentre pas. Je vais devoir couper le message en deux. Voilà. Et voilà, vous avez les noms. Le deuxième pronostic sera donc de trouver parmi ces 10 coureurs lequel terminera le dernier. Pas le premier, mais le dernier. Donc, pendant que vous réfléchissez, cher commissaire, je vais pouvoir vous dire que ben, suite aux nombreuses participations d'hier, le classement a un peu changé. Même si Théo, présent ici, est premier avec 3 points. Et qui... Alors là, vous ne le voyez pas, mais il fait le signe de Jules. En deuxième, Alexandre Payou qui arrive et fait premier. Enfin, réussit ses deux pronostics et ensuite on est plusieurs à un point. Je mettrai donc le classement tout à l'heure sur la vidéo. Ceux qui ont un C entre parenthèses, c'est tout simplement les commissaires. Je n'ai pas marqué ceux qui avaient 0 point. Bon, je pense que vous avez eu le temps de réfléchir, messieurs, mais je vais commencer le pronostic. Donc, je vais dire en premier lieu, vainqueur de l'étape, Thibaut Pinot. Parce que j'ai envie qu'il gagne, je ne suis pas objectif. Et puis, je suis parti pour donner des Français, je crois, jusqu'à la fin de ces pronostics. Et un deuxième pronostic, celui qui terminera le plus loin, je prends un très gros risque, j'arrive plus à parler, Geraint Thomas. Mathieu.
Alors moi, demain, je vois Bernal pour la victoire. Et pour le dernier, je vois Fuglsang.
D'accord. Grégory.
Alors moi, personnellement, je voyais bien Thibaut Pinot aussi, mais je vais changer.
Oh, tu peux garder tout à fait Thibaut Pinot, il n'y a aucun problème.
Alors, je vais garder Thibaut Pinot. Et en dernier, même s'il a été un peu rassurant, je vais tenter un petit Jakob Fuglsang.
Théo.
Ah bah, pour pas répéter trois fois le même coureur, je vais dire Bernal et je vais préciser, il va gagner avec 6 secondes d'avance sur Thibaut Pinot. Et le moins bon coureur du top 10 de VCN, du top 10 prévisionnel de VCN, pour moi, ce sera Dan Martin.
D'accord. Alors, précisez bien sur le live, qui c'est que vous voyez premier et dernier, me marque. Parce que je vois Charles, par exemple, qui me marque Fuglsang. Et de même, Pinot pour moi, je ne sais pas qui est qui. Est-ce que c'est Fuglsang qui gagne l'étape? Est-ce que c'est Pinot qui termine dernier? On ne sait pas. Alors, si deux abandonnent, c'est simple. Je ne serai pas salaud à regarder quel abandon sera le premier en termes de kilomètres. S'il y a deux abandons, je compte... pour les deux coureurs, un point. tout simplement. Et par contre, essayez de mettre votre pronostic sur le même message. Bon, là, on n'est pas trop nombreux, donc ça va, je regarderai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc bah, écoutez, on se retrouve demain soir. Vous remarquerez que sur cette émission, on n'a pas dit le nombre d'échappés qu'il y aurait demain. on va se calmer sur ça. Voilà. À demain, messieurs, mesdemoiselles, mesdames, en espérant qu'on ait eu de la bagarre. À demain, bonne soirée. Au revoir.
Bonne soirée.
Bonne soirée à demain. Salut.